Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com. Aube, épisode 13.
Combien connaissez-vous de façons de raconter une histoire ou de véhiculer une nouvelle?
Genre?
Écrire une lettre, tweeter, prendre une photo.
Crier sur les toits?
Écrire un haïku.
Peindre une toile, passer un coup de fil.
On n'oublie pas quelque chose?
Ah ben oui, allumer la radio pour écouter Aube.
Bref, les moyens de raconter une histoire ne manquent pas.
Mais comment choisir l'information que l'on souhaite partager?
Dans ce 13e épisode, Aube s'est penché sur la transmission de l'information.
Au menu, une chronique sur les médias alternatifs, le slam et la poésie avec Ivy, le journalisme avec Fabien Deglise,
une entrevue avec André Fauteux, fondateur de la revue La Maison du 21e siècle, seule publication du Québec spécialisée sur les maisons écologiques.
Et pour la première fois sur les ondes de CIBL, Aube ne reculera devant rien pour avoir votre like avec sa première capsule audio de chat mettant vedette Gargouille, ma petite chatte préférée et coéditrice de Aube.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives. De prendre action, simplement, par une prise de conscience.
Votre mot-clé? Média.
Sur les ondes de Aube, vous écoutez Guillaume, le roi des ondes. Hey, avez-vous lu Pascal Breton un matin qui parle des visages de l'austérité dans la presse? Moi, l'austérité, je veux plus entendre parler de ça. Puis la couverture médiatique de la campagne électorale qui a pas d'allure non plus. On le sait que c'est un menteur, Stephen Harper. Philippe Couillard aussi, tant qu'à moi. C'est toutes des menteurs. La Françoise David, amant elle aussi, tout le monde le sait, elle a un agenda caché, c'est une nazie. Ma voisine, elle plante des fleurs sur son balcon. Elle aussi, elle a un agenda caché, je vous le dis. Je vous le dis, croyez-moi, de toute façon, vous avez pas le choix, c'est moi qui ai le micro. Quelqu'un m'a donné le privilège de m'exprimer, pas vous. J'ai donc certainement plus raison que vous. C'est à cette autorité-là qui m'est conférée par mon privilège que je fais appel. Face à mon argument d'autorité, vous avez automatiquement perdu le débat. Si vous êtes pas d'accord avec moi, vous avez juste à changer de chaîne. C'est le seul pouvoir qui vous reste. Rien sert de remettre en cause ce qui revient au gros bon sens. Mon gros bon sens. Rien sert de vérifier votre hypothèse de départ avec des faits. Je vous les donne les faits, comme je les vois. Ne vous fiez pas à un raisonnement logique ou à un modèle théorique permettant des prédictions réfutables par l'expérimentation. Non, non, non. Celui qui gagne le débat, c'est celui qui crie le plus fort. Qui parle jusqu'à ce que les autres se taisent. Parce que quand plus personne ne parle, c'est beaucoup plus facile d'avoir le consensus. C'est pour ça que je comprends pas les épais qui écrivent des essais. Ou des livres scientifiques, ou même des articles objectifs. À quoi ça peut bien leur servir aux poètes, aux musiciens, puis à tous les autres maudits artistes gratteux de guitare et autres de vouloir faire de l'art et embellir le monde? Moi, je me fie à mes modèles, André Arthur et Jeff Fillion. Eux, ils savent c'est quoi la vraie liberté d'expression. Pas comme les petits crises d'étudiants qui manifestent encore au centre-ville en ce moment puis qui disent que c'est leur droit. Non, 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 non. La liberté d'expression, c'est pas le droit de prendre une pancarte puis de marcher dans la rue. C'est pour les gens comme moi, qui disent ce qu'ils veulent. Idéalement, qui garochent de la marde, parce que c'est ça que les gens ont réellement envie d'entendre. Sinon, pourquoi ils me paieraient aussi cher, hein? Si les gens voulaient pas m'entendre moi, pourquoi c'est mon show qui est le plus écouté? Ils changeraient de poste ou ils fermaient la radio s'ils voulaient vraiment...
Hey guys, je viens d'entendre à la radio, il y a une manifestation au centre-ville. On pourrait peut-être y aller, ça pourrait peut-être changer les choses.
Aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qu'on peut lire qui n'est pas mainstream, qui te stimule les neurones, t'amène à découvrir de nouveaux sujets, creuse des questions généralement saupoudrées par les médias traditionnels et qui est écrit au Québec. Alors, parlons médias, mais de médias alternatifs, de presse informative qui aiguise l'esprit critique. Tout d'abord, c'est quoi un média alternatif ou une presse alternative? La définition ne fait pas l'unanimité. Cette difficulté à produire une définition exhaustive reflète parfaitement la variété non seulement des sujets, des approches et même des structures. La principale caractéristique de tous ces différents médias, en fait, c'est l'indépendance financière. Alors, les médias partisans d'une indépendance totale, mais qui fonctionnent donc sur le principe du bénévolat, ou l'indépendance par rapport à une ligne directrice, donc indépendance par rapport aux subventions privées, à la publicité ou aux subventions publiques. Le but, c'est de s'affranchir des multiples intérêts particuliers qui pourraient orienter ou interdire l'expression de certains points de vue. En plus, certains d'entre eux osent même fouiller des affaires qui ne seraient pas mises au jour autrement, mettant ainsi un bon coup de pied dans la fourmilière du divertissement. Deuxième point qui est commun donc à ces différents médiums, la structure démocratique. Qu'ils s'appellent citoyens, participatifs ou alternatifs, ces différents médias souhaitent donner la parole à un maximum de personnes différentes, puisque c'est une source de richesse et de diversité des points de vue. Ces avis sont réunis évidemment sous la même bannière, à savoir donc les valeurs communes. L'engagement, la volonté de creuser un sujet, s'arrêter sur les sujets dont personne ne parle, l'humanisme et l'éthique. Troisième point, les sujets qui sont traités. Quel que soit le média examiné, les sujets traités sont généralement inhabituels, comme mis en sourdine par les médias traditionnels qui sont souvent plus attirés par l'immédiateté et le factuel. Les sujets donc pêle-mêle, ça peut être le féminisme, le logement, l'écologie, les droits humains, la santé publique, la guerre, etc. Les médias alternatifs ouvrent la porte aux dossiers de fond, aux comparaisons, aux entretiens hors du monde des paillettes et s'attardent sur des personnalités de l'ombre qui pourtant s'obstinent au quotidien à lutter pour un monde plus juste. Les médias alternatifs se définissent en creux. Ils parlent de ce dont on ne parle pas et qui est pourtant d'intérêt public. Les médias alternatifs souhaitent croiser les points de vue et invitent donc des personnes hors des respectables habitués des circuits traditionnels. Coup de pied dans la fourmilière, ils sont un peu, grâce à leur verbe libéré, les petits gravillons qui gênent dans le soulier et apportent un autre point de vue, source de stimulation de notre esprit critique. Alors que les médias traditionnels invitent en général des politiques ou des 10 experts bien connus des plateaux TV englués dans leur succès et seulement capables de saupoudrage informationnel, les médias alternatifs font intervenir des nobody, des personnes de la société civile comme les ONG par exemple, des médecins en circuit, des petits cadeaux pharmaceutiques ou les intervenants sociaux. L'information est alors diffusée non pas de manière hiérarchique, donc du haut vers le bas, mais selon différents circuits, multi-orientation. Elle doit être diffusée de la base vers le haut, mais aussi entre les différents éléments de la base et aussi du haut vers le bas. Ricochet, par exemple, fait intervenir des journalistes diplômés, des chercheurs, des acteurs de la politique engagés comme Gabriel Nadeau-Dubois. On peut encore citer le journal Itinéraire, qui fournit non seulement une source de revenus pour des personnes de la rue, tout en mettant à jour leur réalité de manière non misérabiliste. Quant à la revue À bas bord, sa ligne éditoriale affirme que, je cite, « le caractère autonome, collectif et non hiérarchique de la revue fait partie intégrante de son mandat et de son identité ». Je suis allée dans la librairie Zone Libre, pas loin de l'UQAM, dont j'admire non seulement la résistance face aux gros joueurs de la vente de livres, mais aussi leur vitrine thématique et les ouvrages engagés. La presse, autre, est plus engagée que je ne le pensais. Je n'ai pas trouvé de Mediapart ni de Canard Enchaîné, médias français d'investigation qui ont soulevé pas mal de questions non traitées dans les médias, mais j'ai eu la joie de plonger dans les revues Liberté, Relations, Nouveaux Projets, À bas bord ou L'Inconvénient. Beaucoup de médias existent également en version web, permettant ainsi d'économiser une grosse dépense d'impression. Apparemment, les ouvrages engagés, mais pas revendicateurs comme Nouveaux Projets, sont des revues papier qui se vendent très bien. Ce magazine est en plein essor. Mélange d'articles de fond, d'art, de sujets sociaux, il intéresse un public à la fois intellectuel, mais aussi surfant sur les dernières tendances, tout en ne tombant pas dans la case médias engagés, étiquette qui rebute souvent le grand public. Cet engagement est un petit peu édulcoré, mais a cependant un certain intérêt au milieu des médias traditionnels. La revue À bas bord, quant à elle, diffusée chaque 2 mois, est une revue sociale et politique, rédigée par et s'adressant, je cite, « aux rebelles de toutes sortes et de toutes origines proposant une révolution dans l'organisation de notre société, dans les rapports entre hommes et femmes et dans nos liens avec la nature ». Fin de citation. Clairement engagé, militant et faisant appel aussi bien à des travailleurs qu'à des professeurs d'université, À bas bord offre une plateforme d'expression pour la critique sociale et repose sur une indépendance financière implacable. Si vous voulez en savoir plus sur les médias alternatifs, je vous invite à lire le très bon ouvrage d'Esteban Montoya, « Devenons des médias alternatifs, guide des médias alternatifs et des sources d'informations différentes ». Pour terminer, je dois indiquer que beaucoup de revues ont disparu depuis 2003, alors que le Centre des médias alternatifs du Québec voyait le jour. Grande fierté d'un dynamisme de la pensée, la disparition de plusieurs revues n'a pas été compensée malheureusement par de nouveaux protagonistes. Cette question de la cause de la disparition est encore à creuser. Peut-être liée à la structure non hiérarchique, source de dissension dans la ligne éditoriale, au manque de temps lorsque la vie les uns et les autres change, ou aux difficultés financières. Quelques îlots de réflexion profonde subsistent. Alors achetez, abonnez-vous, et votre micro-commandite vous transformera en micro-mécène de la libre pensée.
Un reportage d'Aurélie Suberchico. Comment arriver à partager le savoir accumulé au fil de notre existence? La question paraît simple de prime abord, mais renferme surtout de nombreuses variables. Certes, il y a les moyens traditionnels de partager votre savoir. Vous pouvez écrire un livre, vous faire publier dans un magazine, voire une encyclopédie pour les plus érudits. De nos jours, nous avons accès à des outils très performants, mais ayant tout de même leurs limites. On n'a qu'à penser à un site internet, un CD-ROM, une base de données, un DVD de formation, à YouTube, et j'en passe. Je propose ici une technique moderne d'enseignement oral sous forme d'ateliers pratiques dispensés par des formateurs improvisés. Chacun de nous possède une masse énorme de connaissances qui ne demande qu'à être partagée. Pour s'en convaincre, il suffit de dresser sur une feuille la liste de tous les sujets sur lesquels on se considère comme suffisamment bien renseigné pour pouvoir les enseigner. Certes, regarder une vidéo ou lire un livre peut expliquer la base de la connaissance. C'est un moyen intéressant de se familiariser avec les grandes lignes de la matière étudiée. Mais que faire une fois arrivé sur le terrain, si le sujet étudié se trouve à être différent du modèle expliqué? Et que faire si vous avez des questions à poser après avoir écouté la vidéo ou après avoir lu le manuel en question? Le formateur n'étant pas présent pour vous dispenser ses conseils, vous êtes obligé de tâtonner à l'aveuglette, recréant les erreurs normales reliées à l'inexpérience. L'école peut être située n'importe où, pas besoin de murs ou de pupitres pour créer une école. N'importe quel endroit relativement paisible peut être un lieu propice pour donner son cours. Les petits groupes, entre 6 et 12, semblent être l'idéal pour ce genre de micro-formation, que ce soit dans un parc, une montagne, en forêt ou directement sur le chantier de construction, par exemple, si vous voulez construire une maison. Le cours peut être dispensé sur plusieurs heures ou sur plusieurs séances. Un des facteurs à prendre en considération lors de la création d'un atelier est la dispersion de la concentration. Prévoir plusieurs pauses, c'est une façon efficace de garder l'attention sur le sujet sans épuiser les gens par trop d'informations. Quelques activités physiques aussi, comme intermède entre chacune des périodes de cours, ça peut être intéressant aussi. Le corps et l'esprit peuvent alors se concentrer sur autre chose et la matière peut s'infiltrer dans l'inconscient pendant que la volonté, cette sentinelle de l'esprit, est occupée ailleurs. Toujours répéter les mêmes informations peut être redondant. On peut donner la formation à des personnes de son entourage tout en s'assurant qu'un jour, ils pourront à leur tour transmettre le savoir à autrui. La rémunération du professeur peut se faire via un système d'échange local. Par exemple, un sel, un jeu, du troc, tout simplement, ou encore par argent traditionnel, si vous préférez. Comment organiser son cours? Commencez par synthétiser vos idées en écrivant des phrases clés sur une feuille de papier. Une fois ces grandes lignes cernées, retranscrire les idées sur des fiches ou sur des aides-mémoires pour se repérer lors d'exposés. S'enregistrer à l'audio est un moyen très efficace de conserver les archives des cours donnés et permet aux étudiants de pouvoir se repérer si le besoin s'en fait sentir. L'avantage de cette technique est de mettre ensuite le contenu du cours sur un site internet et de permettre à d'autres de bénéficier de votre apprentissage. Mais, encore une fois, rien ne vaut l'apprentissage par l'expérience. Vous pouvez aussi faire des schémas explicatifs et des plans techniques, histoire de bien expliquer le sujet. L'utilisation d'un projecteur ou d'un diaporama sont des outils assez intéressants et relativement peu chers. Si vous prévoyez beaucoup de matière théorique, je suggère de distribuer les notes de cours pour avoir l'attention et les yeux de vos étudiants. Si vous êtes en forêt, vous pouvez utiliser un petit pad cartonné avec une clip pour retenir les feuilles. Une caméra numérique est un outil très intéressant aussi pour prendre des centaines de photos sur tous les aspects donnés pendant le cours et pour permettre de mieux démontrer les explications à d'autres une fois le cours terminé. Une bonne préparation fait toute la différence, que ce soit dans la structure de sa pensée ou dans l'évolution des idées véhiculées pendant le cours. Les qualités à développer pour devenir un bon professeur sont la qualité d'orateur, la patience envers ses étudiants et surtout la persévérance. Il faut toujours garder en tête que c'est par l'expérience que l'on progresse le plus efficacement et que sans théorie, l'expérience ne vaut pas grand-chose.
Texte et narration de Philippe Laramé. L'histoire de la radio remonte à la découverte des ondes électromagnétiques, qui ont permis à Guglielmo Marconi, un physicien italien, de transmettre le premier message par la radiodiffusion en 1895.
Depuis, la radio, comme une immense bouteille à la mer, permet d'émettre un message pour quiconque saurait être à l'écoute.
Le 18 juin 1940, elle permettra entre autres à Charles de Gaulle d'émettre son appel historique depuis Londres, à l'endroit de tous les Français qui résistent encore à l'invasion nazie.
On peut aussi penser aux pilotes en plein milieu de la nuit, au milieu de l'océan, flottant au-dessus du monde, seul dans son avion, mais toujours connecté au groupe par son émetteur-récepteur.
La radio est un média qui rassemble, qui connecte les gens entre eux.
Et comme le disait Marshall McLuhan, le message, c'est le médium. Laissez-moi vous transporter avec moi dans ma boîte à chaussures de souvenirs que je chéris tout au fond du coffre de cèdre hérité de mon grand-père. Destination, samedi, le 14 décembre 2002. Né d'un désir de partager nos recherches sur les alternatives écologiques, de faire connaître nos créations artisanales et par le fait même de conscientiser les gens sur une toute autre manière de vivre et de penser, en accord avec des valeurs de coopération, de simplicité, de respect de la nature, nous avons organisé la foire des éco-alternatives. Ça se déroulait au relais Mont-Royal, dans le sous-sol d'un magnifique sanctuaire du Saint-Sacrement, juste à côté du métro Mont-Royal. Un pied posé dans la salle, tout de suite on sent la magie dans l'endroit, avec les kiosques d'artisans disposés en demi-cercle. Des chandelles de cire d'abeille aux produits de chanvre, que ce soit les vêtements, le lait ou les matériaux de construction. On passe parmi les produits d'herboristerie, le vitrail, les alternatives à l'hygiène féminine, la nourriture vivante et tant d'autres solutions. On avait organisé ça. 80 artisans qui étaient là alentour, qui avaient répondu à l'appel. On trouve aussi des kiosques d'information. Il y avait les Lucioles, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Vidéos, des vidéastes engagés. Ou encore, il y avait des kiosques de construction écologique, de chanvre ou de ballots de paille. Il y avait aussi Liliori, je me semble, de mémoire, avec son projet d'énergie renouvelable de Écosolaire Inc. Il y avait une grande éolienne qu'elle avait apportée aussi dans la salle. Il y avait les éditions Éco-Société qui, bien sûr, sont toujours fidèles au rendez-vous. Les rencontres étaient nombreuses, les échanges étaient vraiment enrichissants et surtout, bon, c'était, je pense, la qualité des sourires qui fusait de partout. Un petit peu plus loin dans cette salle-là, il y avait les conférences. On avait des conférences sur la nourriture vivante, conscience prénatale. On parlait aussi des fiducies foncières habitables. À l'époque, Terra Vie n'existait pas encore. En parlait. C'était comme tout nouveau. On parlait d'éco-village aussi, construction de maisons de chanvre. Guide des ressources alternatives. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. En 2005, Olivier Brière avait créé un guide avec 800 organismes de répertoriés. Première expérience, qui s'est avérée un succès inattendu. Il y avait plus de 1000 personnes qui sont venues se saucer de la trempette de solutions écologiques avec surtout une demande de créer un événement semblable un peu plus souvent dans d'autres endroits au Québec. Et oui, on avait vraiment le goût de recommencer. Maintenant, on réavance dans le temps. 31 mai, 1er juin 2003. Suite au succès de la première édition, on s'est dit, bon, pourquoi en rester là? Notre collectif a donc récidivé. C'était pas juste 80 organismes ou des solutions, des artisans, il y en avait une centaine cette fois-là. Au menu, il y avait des technologies vertes, alimentation saine, consommation responsable. Il y avait des ateliers aussi qu'on avait organisés dans toutes les sphères, dans tous les endroits. On avait vraiment maximisé la salle, des conférences, des projections vidéo, il y avait de l'artisanat. Il y avait même un éco-village en carton qu'on avait fait pour les enfants. Il y avait vraiment un service de garde. Les parents pouvaient laisser leurs enfants. Il y avait des gens qui étaient déguisés. On avait fait des activités de compteur. Il y avait du bricolage. Il y avait même des endroits où on pouvait faire des sortes de Lego avec du morceau de bois, de plancher recyclé. C'était hallucinant. Et les enfants ont fait une grande murale avec « Décrivez-nous l'éco-village de vos rêves ». Il y avait des dessins sur les murs. C'était vraiment super beau. Il y avait aussi un sentier qu'on avait fait pour un peu les grandes pistes d'action pour progresser vers une société plus humaine et plus écologique. Le public a eu l'occasion de s'initier à différentes grandes sphères de l'alternative au Québec à ce moment-là. C'est aussi un grand moment pour célébrer cette convergence de solutions positives et constructives avec des organismes et des entreprises qui mettent en pratique ces philosophies évolutives. On réavance dans le temps. Septembre ou octobre? Je me rappelle plus vraiment de la date. On a fait une troisième foire des éco-alternatives, mais celle-là était sous une thématique sur la forêt. On l'avait appelé la journée de l'arbre. On voulait financer aussi surtout un projet qui s'appelait la sauvegarde de l'île René Levasseur. C'est un collectif dont Hope faisait partie à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez, le SOS René Levasseur, ça vous dit quelque chose? Plus tard, par la suite, on avait organisé aussi un quatrième événement. Ça, ça a été le dernier que j'ai organisé personnellement. C'était la fête bio-paysanne, qui existe encore d'ailleurs, si ça vous tente d'aller sur leur site, en partenariat avec l'Union paysanne, la TAHU. Première fête de bio-paysanne, ça a eu lieu à la TAHU, avec quatre grands chapiteaux. Il y en avait un de ces chapiteaux-là que c'est moi qui avais organisé. C'était vraiment avec tous nos artisans, puis les gens, les kiosques qui avaient des solutions à apporter. On les avait réinvités cette journée-là. Ça, c'était en juin 2004 de mémoire, encore une fois, parce que j'ai pas les dates sous la main. Mais bref, on avait organisé ça. Puis là, cette fois-là, ça avait explosé. On avait eu comme 4000 personnes. On avait de la publicité. On avait enfin du budget pour pouvoir réaliser ça. Puis on avait aussi, la TAHU puis l'Union paysanne, c'est quand même pas des petits joueurs. C'était vraiment, on a pu vraiment déployer ça dans toute son ampleur. Bref, depuis cette époque pas si lointaine, il y a plein de festivals à caractère environnemental et surtout éducatif. C'est pour ça vraiment que je voulais vous en parler. Je pense que c'est super important d'en garder ça en tête. Il y a l'Écofête qu'on connaît vraiment, ils sont rendus à leur 12e édition. Et on décide de prendre un break cette année pour une raison, je pense, d'épuisement, être un peu fatigué. Ils ont eu des problèmes aussi avec les élus, la municipalité et la MRC. Fait que si vous connaissez des gens qui s'impliquent, qui organisent des fêtes, qui organisent des événements, des activités, que ce soit à plus petite échelle ou à grande échelle, encouragez-les. Des fois, une petite donation, un 5 ou un 10$, un peu de temps de s'impliquer comme bénévole, je pense que ça prend ça. Moi, je pense que ça fait toute la différence, justement, pour ces organisateurs-là, d'envoyer vos commentaires aussi, vos appréciations, vos feedbacks, comme on dit. Les rétroactions sont super importantes.
Pour voir les photos des événements traités dans cet article, nous vous invitons à visiter la section photos de notre page Facebook à facebook.com/aubesolution. Texte et narration de Philippe Laramé.
Je dirais vraiment c'est au cégep que j'ai eu le déclic sur la poésie puis qui m'a amené même à me spécialiser là-dedans à l'université. Parce que j'ai trouvé non seulement dans les poèmes, mais je te dirais dans la discipline poésie, quelque chose qui m'attirait énormément comme petit agent de transformation de la réalité, agent de transformation du monde, comme disait Rimbaud, à quelque part.
Dire directement, sans salmigondir, avant que la mort vienne nous redire ce que la vie aura voulu nous dire, du tout au tout, sans jamais défaillir. Dire qu'on s'endort en plein après-midi, qu'on travaille trop, c'est pas nouveau à dire, qu'on cherche encore un coin de paradis, rapidement c'est bon pour le cardio.
C'est parce que la poésie ramène les idées sur le plancher des vaches. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'on fait tomber les idées sur terre. Et nous, comme êtres humains, on a tendance à être soumis aux abstractions. Là, on se cache derrière des idées. Et je te donne un exemple. Tu sors, tu termines ton boulot, il est 4 heures, tu rentres chez toi à pied, supposons que t'es pas très loin, t'arrêtes à un coin de rue. Puis là, tu pousses une respiration, puis tu te sens bien. Comment décrire ça? Est-ce que, imagine qu'à cet instant, tu devrais le créer, lui donner un nom nouveau, juste pour cet instant que tu viens de vivre pour la première fois. Donc la poésie, c'est un peu cette manière de voir toujours les choses un peu de la première fois et chercher précisément à nommer cette chose-là.
Dire directement, sans salmigondir, avant que la mort vienne nous redire ce que la vie aura voulu nous dire, du tout au tout, sans jamais défaillir. Dire qu'on s'endort en plein après-midi, qu'on travaille trop, c'est pas nouveau à dire, qu'on cherche encore un coin de paradis, rapidement c'est bon pour le cardio. Quoiqu'au micro, c'est un peu idiot, dire des gros mots pour se faire applaudir, tourner les coins ronds, espérer arrondir la fin du mois et le début de nous rire, tout son sou, surtout quand c'est pas fake. Ça vaut le coup, ça vaut un steak.
Là, oui, effectivement, l'image du poète qui vole un peu, pas trop, pas de responsabilité, c'est l'image souvent qu'on a de la poésie, alors qu'au contraire, la poésie est une arme de pointe, une surspécialisation du langage, si tu veux.
Dire le petit enfant combien il va grandir, la belle balle apprendra à rebondir, qu'il n'était pas plus grand que mon avant-bras, et dire que bientôt il m'arrivera là, ou là, Ouh la 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 human, step by step, bye bye bébé, bon ben, bye. Mais dire tendrement, tu sais, c'est dur à dire, l'amour qu'on éprouve jusqu'à nous étourdir, que s'il nous arrive parfois de le maudire, combien on est pressé de recommencer, sans lasser. Ah, c'est pas assez, c'est si bon, c'est cité. À quoi bon s'exciter? L'amour est aveugle, voilà la vérité.
Faudrait que la poésie parle, mais elle parlera pas. Fait que quand la poésie parle pas, c'est l'humain qui dit rien. Et quand l'humain dit rien, ben on tient pas compte de lui. C'est tout. Fait que on tient compte des chiffres, on tient compte des intérêts, mais on tient pas compte de l'humain. L'humain lui-même va chercher dans le langage à trouver la façon la plus juste de s'exprimer, la façon qui correspond le mieux à ce qu'il ressent. Donc, on a besoin d'écouter ce que la poésie nous dit. Ça m'apparaît super important.
Mais dire tant de mots, ça veut dire on a beau dire. Et beau jeu de se croire pas si pire, mais les mots montent en moton. Mettons coton, moitié noté, au ton ouaté. Les mots démons, les mots disanges, médisants, bizarres et zézayants. Les mots zaïques, des mausolées, mots isolés des alcooliques, unanimes. Dire les raisons et les verbes de table, de conjugaison, les excuses et les exceptions. Amstram, gram, matical et collégram. Tous les mots de la langue s'empilent l'un l'autre et me montent au cerveau.
Pour partager la poésie avec Ivy, rendez-vous sur le slammontréal.ca.
Dire tant de mots, ça veut dire on a beau dire et beau jeu de se croire pas si pire. Les mots montent en moton, mettons coton, moitié noté, autant ouaté. Dire Manhattan et le ciel foudroyé. À quoi bon s'exciter? L'amour est aveugle, voilà la vérité.
Mais en fait, on dit que les médias, c'est le cinquième pouvoir. Il est monopolisé par des grandes compagnies, on sait bien, et les financiers qu'il y a en arrière, souvent avec des couleurs politiques. Mais en réalité, le citoyen a beaucoup plus de pouvoir qu'il ne le croit. Alors, il s'agit simplement d'utiliser les tribunes ouvertes, les tribunes libres, les lignes ouvertes, les textes d'opinion. Aussi, faire des liens précis, locaux, avec les journalistes alliés. Maintenant aussi, bien sûr, on a le web, les blogs, les sites web, évidemment Facebook et même Twitter. Hein, une phrase bien punchée peut avoir pas mal d'influence. Alors, je vous donne un exemple vécu qui m'a vraiment réveillée à ce pouvoir citoyen. Alors ça s'est passé à Grimby, ça a commencé déjà en 2006, mais c'est surtout en 2007 qu'il y a eu une avalanche d'événements de ce qu'on appelle aujourd'hui la saga Minor, où il y avait un maire écologiste et visionnaire, vraiment un maire soucieux du bien commun, qui s'appelait Richard Goulet, qui voulait convaincre les citoyens de voter pour l'achat d'une forêt à peu près au cœur de la ville de Grimby. Là, il y a eu une opposition qui s'est liguée, politique évidemment, mais qui était en lien avec, comme par hasard, d'ex-élus, pas tout à fait désintéressés, les patrons, donc les gens les plus riches, et qui étaient aussi souvent reliés avec l'immobilier, et qui ont créé une coalition contre l'endettement, où ils ont mis des panneaux devant les usines, devant leurs maisons, et qui ont multiplié les interventions dans les médias. Ils achetaient des pages complètes pour convaincre les citoyens de voter contre l'endettement de la ville. Oh Seigneur, il n'y a rien de pire. Hein. On sait ce que ça donne aujourd'hui. Les gens de Grimby, beaucoup avaient un lien transgénérationnel avec cette forêt parce qu'ils avaient connu là, leur premier feu de bois, leur premier French kiss, puis leur première nuit dans la forêt. Si proche donc d'une ville, alors ils se sont organisés les uns après les autres en écrivant des lettres ouvertes. différentes personnes sont manifestées. Ils ont commencé à se rallier. Tout à coup, il y a une coalition d'aînés, d'ex-élus, d'agriculteurs, d'enseignants, de commerçants, d'écologistes, d'artistes qui sont manifestés les uns après les autres en faisant des conférences de presse. Et ils ont utilisé pour ça bon, la Voix de l'Est, le journal, le quotidien local, où il y avait un rédacteur en chef visionnaire et un homme de cœur, Benoît Lapierre, j'ose le citer. Donc il y a eu quand même beaucoup de travail, dont une campagne d'information du maire qui a fait 10 rencontres dans chaque quartier où il expliquait clairement l'intérêt d'acheter une forêt pour 7 millions. Ça paraissait énorme à l'époque, mais déjà, cette forêt vaut facilement le quadruple maintenant. Il y a aussi eu des campagnes d'intimidation, évidemment, de contre-information. Ensuite, la candidate de Québec solidaire, c'est le seul parti qui s'était levé clairement pour l'achat de la forêt. Et ensuite, une coalition citoyenne, la première coalition, où on a appelé à une manifestation citoyenne à Grimby, la conservatrice. On a réussi à faire sortir 1200 personnes dans la rue avant ce référendum, donc, qui était, d'après les sondages, à 62% pour, contre l'endettement de la ville. Et un mois plus tard, pendant l'élection, il y a eu 65% pour le oui. Donc maintenant, Grimby a une forêt de 250 acres où les citoyens se promènent librement avec leurs chiens. Tous les gens bénissent encore aujourd'hui cette action. En tout cas, ça montre que si on se rallie, si on se relie ensemble, l'union fait la force, si on est bien organisé et qu'on rassemble nos alliés et qu'on y met le temps et les efforts, on peut gagner une forêt et bien d'autres causes.
C'était un texte d'Annie Schneider, Les multiples leviers du citoyen engagé.
Ici, c'est la Ross, Roseries and Witchcraft, une des plus grosses agences de pub au monde. Moyenne d'âge, 28 ans, chiffre d'affaires, 1 milliard 430 millions de francs. Mon emploi à durée indéterminée, c'est concepteur-rédacteur. Je conçois des scénarios de films de 30 secondes et des slogans pour les affiches. Ah, je dis slogan pour que vous compreniez bien, mais sachez que l'on dit accroche ou titre. Chanel, Eurostar, Barilla, Madonna. Tiens, par exemple, Wonderbra. Regardez-moi dans les yeux. J'ai dit les yeux.
Salut les ringards.
Eh bien, c'est de moi.
Cambrez-vous.
Ici, on explore de nouveaux territoires sur le saucisson sec. Stan, lui, consolide l'esprit mini-doux chez les 15-35. Waouh! Alexandra, elle essaie d'optimiser l'approche stratégique des couches culottes pour seniors. Funky!
Capsule de gargouille laramée du nom de Chasse aux insectes, tirée de Instinct Animal. Tradition orale en audiorama, une exclusivité de Aube.
Je faisais quoi moi déjà? Ah oui, je me faisais à souper. C'est quoi déjà la recette? Ah non, c'est pas ça. Non, toujours pas ça. Ah ouais, l'Allemagne a envahi la Norvège. Les expos mènent 8 à 4. Ah tiens, encore 3 maudits vidéos de chats. Il y a bien trop de vidéos de chats sur tête de bloc. Ils devraient censurer les vidéos de chats au lieu de s'acharner sur les nipples. Qu'est-ce que je faisais déjà? Ah oui, cherchais ma recette de sauce pêcherelle. C'est du même, ça s'appelle. Ah, pis laisse donc faire. Nodo va me corriger ça. Non, c'est pas ça. Non, toujours pas ça. Hein? Ils vont construire une autoroute par-dessus le plateau Mont-Royal? Hey, ça c'est original. Me semble que je m'ennuie de pas avoir de genre. Avant, j'étais tout empoigné dans les bouchons. Ça faisait du temps pour lire. Pratique le cellulaire au volant. Reste concentré, sauce. Sauce, bêcherelle. Pourquoi je tombe sur une annonce de pneus d'hiver sur Noodle? J'avais pas un bloqueur de pub, moi, là. Une pluie de grenouilles dans le désert du Sahara? Hein? Un type se fait décerveler dans un douleur même. Quel monde de fous, ce qu'on vit. Bon, encore un petit chien qui fait wouf-wouf en sautant sur sa queue pour un petit nonos. Les vidéos de chien, c'est quasiment aussi pire que... Décidément, nous vivons dans un monde d'idiots et de TDAH.
Oh!
Hey, ça sent trop mauvais tout d'un coup, là. Hein? Fuck! Ma sauce béchamel! Hein? Ben, okay. C'est pour ça que je trouvais rien sur nos dos. Ils doivent pas en parler sur kiwi quoi, déjà. Bon, là, il y a mes voisins qui fessent mon plancher. Correct, carotte, calme-toi le pompon. C'est juste une sauce bécherelle qui crame. On va pas en faire un plat. Enfin, oui, mais bon. Pas pour toi, en tout cas. Bon, voilà. Hey, il me semble que j'ai encore faim. C'est bien compliqué de se faire à manger de nos jours. Y'a pas une application qui fait ça à ta place, genre contrôler votre grippin via la iPhone Spore? Non, c'est pas ça. Voyons, toujours pas ça. Hein? Une recette de mayonnaise maison du Capitaine Bio. C'est qui ça, le Capitaine Bio? Un autre pauvre type qui cherche une vie. Hey, le héros en collant, tasse-toi dans du chemin! Veux-tu même dire ce que je fais sur Poodle Street News? Ah ouais, je me cherchais un resto sur le plateau. Bon, mes frites sur le charcoal sont prêtes. C'est donc bien weird de saucer ça dans une sauce béchamel. Où c'est que j'ai déjà pogné ça, cette recette-là? Ah oui, c'est une pop-up pancarte sur un abri-bus. L'ordinateur est votre ami. Il ne faut pas en avoir peur, qu'il disait. Voyons, font bien du bruit eux autres à soir. Hey, c'est devant chez nous qui s'arrête. Hey, hey, c'est mon balcon qui est en train de flamber. Non, 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 c'est mon voisin d'en haut. Phew, pas de panique. Ça aurait pu être pire. Concentration, concentration. Faim, frites, charcoal, mayonnaise, pompier. Tiens, je viens d'inventer une nouvelle recette. Le fricassé de pommes de terre barbecue sous béchamel flambé. Ça risque de faire fureur sur YouTube. Check bien ça, une vidéo virale. Une recette pour toute la famille.
Délire d'un metteur en onde de Philippe Laramet. Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plutôt en début d'émission, nous avons entendu le monologue « L'argument d'autorité » de Guillaume Lande.
La capsule « Transmission du savoir » de Philippe Laramé.
Le reportage d'Aurélie Suberchico sur les médias alternatifs.
Et juste avant la pause, la « Saga Minor » de Annie Schneider.
Si vous avez manqué la première partie, toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
À venir dans la deuxième partie, André Fauteux, éditeur de « La maison du 21e siècle ».
Le journalisme indépendant avec Fabien Deglise du Devoir.
Et pour l'instant, voici les nouvelles du front. Bien avant l'invention de la presse écrite, les hommes avaient inventé la censure. En effet, les puissants ont rapidement tenté de décider pour nous ce qui pouvait être dit ou non. Heureusement, plusieurs luttent aujourd'hui pour la liberté d'expression et l'accès à l'information. Ici Guillaume Lambe avec les nouvelles du front. À Toronto, une journaliste lance un mouvement sur Twitter avec le hashtag « #BeenRapeNeverReported ». On le connaîtra au Québec sous le nom de « Agression non dénoncée ». Ce mouvement est bienvenu puisqu'il permet de mettre en lumière un tabou de nos sociétés, soit le fait qu'une femme sur trois a été victime d'agressions sexuelles dans sa vie. Il était grand temps d'en parler, même si en parler ne suffira certainement pas. Le débat est lancé et je considère qu'il doit continuer. Bravo à tous ceux qui s'y sont impliqués, qui s'y impliquent et qui s'y impliqueront. Évidemment, d'autres enjeux méritent notre attention. Je m'attarderai maintenant aux enjeux environnementaux. Selon des propos rapportés dans Le Soleil, en août, Stephen Guilbeault, principal directeur d'Équiterre, souhaite interpeller un plus grand nombre de citoyens face aux enjeux environnementaux lors de la campagne fédérale de 2015. Il sera important de voir l'implication des écologistes durant la campagne électorale, puisqu'il est très difficile de faire émerger les questions environnementales. Selon un rapport publié par Environmental Coverage Ranking, seulement 1% des nouvelles aux États-Unis concernent l'environnement, alors que 20 à 60 fois plus de nouvelles traitent de crimes et de divertissements. Pourtant, les scientifiques sont formels. Il faut changer notre façon de consommer si on veut maintenir le changement climatique en dessous des 2 degrés et éviter des dérèglements à l'échelle planétaire dont les conséquences seraient désastreuses. Mais il n'est pas toujours facile de faire émerger de l'information, surtout lorsque les gouvernements tentent de nous la cacher. Récemment, il y a eu la saga WikiLeaks ainsi que celle de Edward Snowden. On sait maintenant que Snowden recevra un prix pour la liberté d'expression de la Norvège, alors que les États-Unis continuent de vouloir le mettre en prison. Le travail n'est réellement pas facile pour nos journalistes. Selon un rapport de Reporters sans frontières, 119 journalistes auraient été enlevés, 178 journalistes sont maintenant en prison et 66 journalistes ont été tués, et ce, en 2014. C'est pour ça qu'il est important de récompenser ceux qui font un travail honorable, que ce soit par le World Press Photo ou encore les prix Pulitzer de journalisme en service public. Il y a aussi une panoplie de citoyens qui continuent à s'impliquer dans le domaine de l'information, que ce soit en rédigeant des blogs ou en relayant des articles qui sont intéressants et bien documentés. Merci à ceux qui le font. Nous aurons besoin de vous dans le futur. C'était Guillaume Lambe avec des nouvelles du front. La conversation est tellement fun, il me reste encore un peu de café. Si ça te dérange pas, je garderai l'enregistreuse ouverte.
Ouais.
Dans tous les films d'Apocalypse, le 1984, V pour Vendetta, il y a toujours un des personnages puissants du pouvoir, c'est l'annonceur de nouvelles qui fait de l'opinion, le late night evening, parce que lui, il fait puis il défait l'opinion publique de tout le monde.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait contre ces personnages-là?
Ben, on arrête de les écouter déjà. C'est déjà un bon départ. Être journaliste, avoir une tribune, c'est pas un droit, c'est un privilège. Et ça vient avec une responsabilité énorme. Laissons juste les faits parler.
Qu'est-ce qui t'a amené à devenir journaliste,
toi? Moi, j'ai toujours observé puis raconté. Comment je me présenterais? Fabien Deglise, journaliste chroniqueur au quotidien Le Devoir.
Qu'est-ce que tu appelles l'indépendance journalistique?
Alors, l'indépendance journalistique, là, c'est un des fondements du journalisme. Là, c'est le principe anthropologique d'observation non participante. Et si on est engagé, impliqué dans les phénomènes qu'on observe, on se retrouve à plus faire du journalisme, mais à faire de la communication ou à faire des relations publiques. Un journaliste n'est pas ça. Lui, ce qu'il fait, c'est faire circuler des idées et faire circuler les idées le mieux possible pour permettre aux gens de saisir l'intelligence de ces idées-là et d'en faire après ça personnellement ce qu'ils veulent.
Par rapport à la nouvelle, je pense qu'on peut arriver à un traitement relativement objectif, mais par rapport au choix des nouvelles, est-ce qu'on peut quand même rester objectif? C'est quoi ton baromètre? Comment est-ce que...
Les baromètres sont assez simples en journalisme. Ils ont toujours été comme ça et peu importe les outils qu'on a pour les diffuser, ça ne change pas. C'est l'intérêt public. C'est la pertinence du sujet dans l'inscription dans le présent. Donc, est-ce que c'est pertinent de parler de ça aujourd'hui?
Je ne veux pas nécessairement qu'on ait un débat, mais je fais cheminer ma réflexion par rapport à ça. Parce que moi, je trouve que la nouvelle environnementale, par exemple, c'est quelque chose qui, dans certains cas, n'est pas assez traité. Alors que c'est comme un enjeu d'intérêt public, mais je trouve assez majeur là, avec les changements climatiques. À un certain moment donné, il y a des décisions qui se prennent à certains niveaux par rapport à c'est quoi qui est important de traiter, dans le fond, je suppose.
Il y a des inclinaisons. Des médias ont différentes inclinaisons. Le Devoir a cette inclinaison-là, ces inclinaisons-là, humanistes, sociales, environnementales. C'est un des premiers journaux au Québec hein, qui a mis l'environnement dans ses pages. C'est sûr qu'il y a d'autres médias qui n'ont pas eu cette inclinaison, qui n'ont pas eu la même inclinaison, qui n'ont pas eu la même sensibilité, parce qu'eux avaient une inclinaison peut-être plus commerciale, plus économique.
Est-ce que c'est pas important d'avoir des journaux qui sont totalement indépendants de ces grands groupes-là?
C'est très important d'avoir des journaux indépendants, mais c'est surtout très important d'avoir des journalistes indépendants. Le journaliste doit se mettre à l'écart et se méfier de toute forme de manipulation. Toute forme de manipulation. Les journaux, les médias sont des instances de pouvoir, des lieux de pouvoir. Et donc, qui dit lieu de pouvoir dit tension et tentative d'influencer, de manipuler. Donc, les journalistes doivent se méfier de toute forme de manipulation qui viennent de l'extérieur de l'entreprise de presse, comme les manipulations qui viennent de l'intérieur de l'entreprise de presse. S'arrêter, puis dire, est-ce que j'ai raison d'y croire? Est-ce que ce qu'il m'a dit est vrai? Est-ce que c'est effectivement ça? Est-ce qu'il y a des études qui confirment ça? Est-ce qu'il faut faire cette démarche-là? Les journalistes indépendants sont là pour faire apparaître ces enjeux, pour poser des questions et pour, comme le disait Henri Bourassa à la Fondation du Devoir, hein, pour dénoncer le coquin. C'est ce qu'on a de plus précieux dans cette profession-là. Si on perd ça, on n'est plus journaliste, en fait.
C'est
une belle confiance qui est accordée au public, comme quoi lui, il est capable de se faire une opinion.
En fait, il y a deux erreurs que les journalistes font souvent, et les gens des médias en général font. Un, c'est de croire que le public n'est pas assez intelligent, ne peut pas comprendre. Et la deuxième, c'est de dire, moi, je veux que les gens croient ce que je partage mes opinions à moi. C'est pas possible, ça. La meilleure chose à faire, c'est justement de faire circuler les idées dans ces environnements sociaux-là, puis de laisser les gens en faire ce qu'ils veulent. Et un peu comme le même phénomène que les ondes, les mêmes ondes que la radio. La radio est un très bon vecteur de transmettre des idées justement à cause de ça. On balance un caillou dans l'eau, là, ça fait des ondes. Mais la pensée, les questions se circulent comme ça et à un moment donné vont atteindre un plus grand nombre de personnes. Et donc, il faut laisser aux gens le temps d'apprivoiser ces changements-là, parce que si on essaye d'aller trop vite, on va les heurter, on va les confronter. Et les gens qui se retrouvent confrontés, ça devient des gens qui vont être beaucoup plus faciles à être récupérés, par exemple, par les partis radicaux, par les partis populistes, là, qui sont capables d'aller, ou les animateurs de radio populiste.
C'est peut-être difficile, mais un bel objectif aussi d'avoir un journal qui fait l'inverse, une radio qui fait l'inverse, ou qui essaie de rassembler plutôt que de diviser. Dans le Devoir, si on dit que c'est un média d'intellectuel, mais il y a des pages de sport, des pages de culture, je sais pas, t'sais. C'est juste qu'il y a moins de pubs qui se lient mieux que les autres, je trouve.
Un média d'intellectuel, moi, je suis Devoir depuis plus de 10 ans, hein. J'entends ça depuis plus de 10 ans, puis j'entendais ça avant même, mais j'ai jamais compris. Un journal d'intellectuel, c'est quoi un journal d'intellectuel? C'est pas...
C'est un journal, tu comprends? Comme c'est sûr qu'il y a de l'information dedans. Qu'est-ce que tu veux dire?
En plus, c'est un journal qui est très bien écrit, je pense, et qui est écrit de manière à être compris et intelligible par la plupart des gens. Les gens qui disent que Le Devoir, c'est un journal intellectuel, je pense que c'est des gens qui ne le lisent pas beaucoup ou qui l'ont jamais lu parce qu'il y a des inclinaisons, comme je disais, humanistes, sociales, environnementales, intellectuelles. Ça me fait toujours rire.
J'ai un autre meeting tantôt à 11h. Je pensais pas qu'on allait.
La connerie humaine, mais la connerie m'a barré, m'a rayé de son antenne. J'ai essayé tous les genres, j'ai été voir plein de gens. J'ai cherché des remords avec plein d'acharnement. J'ai bien essayé pourtant, pas suivre pas de comme tout le monde. J'ai voulu être différent, me suis fait payer une ronde. J'ai cherché des rimes extra pour enrichir mes chansons. Je leur ai montré mes textes et ils m'ont dit t'es pas dans le son. Les médias bourrent le monde avec les mêmes bonbons. 30 secondes pour faire la digestion. Moi qui vivais sans histoire, primaire primate sans système, qui chantais sur le trottoir mes opéras de bohème, en reniflant de grand air, en prenant pour un poète, dans une solitude lunaire qui me préservait des courbettes. J'ai rencontré tous ces types qui m'ont dit pour réussir, faut faire des vidéoclips, pis faut s'habiller en cuir, qu'on écoute plus des paroles, que c'est trop nowhere en français, que l'avenir est au rock'n'roll, qu'il faut que je prenne un nom anglais. Les médias pour le monde avec les mêmes bonbons. 2 minutes 30 secondes pour faire la digestion. Raspa! branche pour l'éducation béate. Qui sait que celui qui dérange peut se faire passer au bat. Vaut mieux suivre les bons conseils des petits esprits bien en place. Pas leur casser les oreilles avec une certaine audace. Avec tous ces gros bonnets qui me disent ce qu'il faut faire. Si je connais pas le succès, il restera toujours à me taire. À moins de faire ma promotion en couronnant les lancements ou bâcher ses subventions sur le bras du gouvernement. Les médias bourrent le monde avec les mêmes bonbons.
Dans le livre « L'homme sans qualité », l'écrivain autrichien Robert Musil décrit la visite du général Stomm à l'ancienne bibliothèque impériale d'Autriche en 1913, où il est confronté à un ordre dont l'infinité dépasse ses capacités d'entendement.
Les 3,5 millions de références de la bibliothèque de Vienne lui font prendre conscience que nul ne saurait plus jamais lire tous les livres.
L'état d'esprit du général Stomm représente assez bien le mien face à mon fil Twitter.
Ben avant ça, j'ai été formé en journalisme à l'Université Concordia. J'ai travaillé à la Gazette pendant un été et un automne. Et ensuite, j'ai travaillé 5 ans chez Habitabec, où je me suis spécialisé en maison saine et écologique pendant 5 ans. Et c'est quand Habitabec est tombé en faillite que j'ai lancé la Maison du 21e siècle en mars 1994. C'était à l'époque un bulletin de 4 pages qui a évolué vers 12, 16, 32 pages. Et en 97, c'est devenu un magazine progressivement avec de plus en plus de couleurs. Bonjour, je m'appelle André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. Ben là, ça fait déjà 22 ans qu'on publie. J'ai terminé ma 22e année de production. Et ma foi, tout a tellement changé dans les dernières années avec, entre autres, le lancement du programme LEED pour les habitations au Québec grâce à Écohabitation qui certifie ces maisons-là. Je pense que ça a vraiment donné un énorme coup de barre aux maisons écologiques. Depuis plusieurs années, on est sur le web. Là, on va même mettre toutes nos archives qui sont sur CD pour les 20 premières années. On vend le CD, mais on va indexer tout ça sur le web prochainement. On a une boutique donc où les gens peuvent s'abonner pour 1 an, 2 ans, 3 ans. L'abonnement numérique est gratuit avec l'abonnement papier, où on peut payer moins cher avoir numérique seulement. Et puis, donc, on a aussi des DVD, entre autres, une série télévisée qu'on a faite. Et puis, c'est ça, on touche à toutes les tendances de la construction saine et écologique. Ça va donc du bio avec des matériaux naturels et sains, en passant par les champs électromagnétiques, mon dada, comme tu sais. Et puis, toutes les questions de science du bâtiment. Donc, ça fait 25 ans que j'interview des experts, surtout nord-américains, mais à l'étranger aussi, sur... ces questions techniques, que ce soit chauffage, ventilation, isolation, etc., etc. Ma priorité, c'est vraiment les questions de santé. D'ailleurs, la Société canadienne d'hypothèque et logement avait défini les maisons saines en disant que c'était le premier critère. Souvent, les gens se rendent malades avec des maisons qui sont mal ventilées et tout ça, qui sont moisies. Donc, toute la prévention et la correction des problèmes de qualité de l'air, qualité de l'environnement, quels sont les matériaux sains écologiques et tout ça, là, comme vous savez, les moisissures, les champs électromagnétiques, etc. Et donc, on a aussi un accent très important sur tout ce qui est efficacité énergétique. On sait que les coûts d'électricité ne cessent d'augmenter et les problèmes d'humidité souvent sont causés par des enveloppes qui sont passées étanches. Donc, il y a beaucoup de rénovations à faire au Québec. Donc, c'est ça, les principaux sujets qui sont traités. Les gens viennent tant pour se construire un jour ou chercher comment rénover de façon écologique. Mais ça va vraiment, ça couvre tout le cycle de vie. On peut aller parler déjà évidemment traiter de la gestion des rebuts de construction, le recyclage des matériaux. La liste est très très longue, des centaines de sujets. Ce qui est bien sur le site, c'est que dans la fenêtre de recherche, on rentre un mot-clé et là, on va voir tous les articles sur le web ou qui ont été traités dans la revue. C'est quand même indexé sans que tout le CD d'archives, tous les articles ne sont pas sur le site, mais ils devraient l'être cet automne ou cet hiver. première année, j'ai fait 10 numéros, mais depuis plusieurs années, j'ai baissé à 4. Donc, à chaque année, ça baissait, mais à 4 en faisant un trimestriel. On a le temps de faire la qualité sans se brûler. Ben, c'est vraiment beaucoup de travail. Évidemment, les frais de production, d'impression, de poste sont très élevés. Et puis, au début, je faisais moins de pages. Alors, à mesure que le nombre de pages augmentait, j'ai réduit à 6 et à 4. Ça a baissé un peu dans l'imprimé depuis quelques années. La pub a baissé. Mais donc, on déborde sur le web. Et ce qui est bien, c'est que les abonnés à la revue ont accès aussi à des articles en ligne, ceux certains qui sont exclusifs, réservés pour nos abonnés.
C'est ce qui conclut le 13e épisode de Aube.
Nous sommes, comme d'habitude, très friands de lire vos commentaires, vos suggestions et vos idées de reportage ou d'entrevue sur laplumedefeu.com.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci car chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Guillaume Lambe, Philippe Laramé, Annie Schneider, Aurélie Subercico, ainsi que toutes les personnes interviewées dans cette émission.
À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.